et des cultes, un nouveau podcast. Nous allons explorer ensemble une planche iconique du 9e art. 9e art, expression de Maurice dans la rubrique Spirou en 64, pour montrer que la bande dessinée pouvait aussi tutoyer les autres arts graphiques. Alors aujourd'hui, nous allons rendre un hommage à Jean-Claude Mézières et parler de la planche 36 du Valérian tome 21, L'Ouvre-Temps, dernier opus de la saga spatio-temporelle de cet agent qui explore les confins de l'univers. Alors, c'est l'occasion de rendre hommage à Jean-Claude Mézières, qui est disparu le 24 février. Jean-Claude, effectivement, je l'avais rencontré dans le cadre d'un article pour Papier Nickelé 57 et d'une séance de cinéma, hommage au cinéma du Panthéon en 2018. Cette bande dessinée vient de loin, c'est une bande dessinée qui se développe depuis les années 67, qui a abordé énormément de thématiques sur la technologie, la diversité des espèces, la conquête de l'espace, la mondialisation. On est dans un univers très très vaste. Alors, nous avons 21 albums, de 1967 à 2009. Le tome 0 date de 63, c'est une histoire qui se passe au Moyen-Âge, où Valérian rencontre Laureline, et la série devient Valérian et Laureline au tome 19. Nous allons parler maintenant d'une planche. Alors, cette planche, c'est une planche iconique du dernier album. Alors, ce dernier album, il est issu d'un nouveau cycle, hein, où il s'agit de boucler la boucle, de revenir à l'origine, c'est-à-dire la Terre a disparu dans un cataclysme. Peut-on la retrouver ? Christin crée un univers métaphysique, le Grand Rien, et cette création est contemporaine des grandes interrogations que certains scientifiques comme Petit et Guillemin ont sur la matière noire et la face sombre de l'univers. Voilà, donc le cycle commence avec Au bord du Grand Rien, L'Ordre des Pierres et enfin L'Ouvre-Temps, dont nous allons commenter la planche. Alors, pour vous donner le pitch avant d'arriver à la planche où nous retrouvons une partie de tous les héros de la série, Galaxity a disparu. Valérian se retrouve avec une expédition d'explorateurs nommée par une commandante qui s'appelle Shinga Ruga, une femme forte. Ils vont découvrir la puissance des Volocs. Les Volocs sont des pierres noires qui seraient à l'origine de tous les malheurs de la Terre. Et cet album met fin à la quête des héros pour retrouver l'âge d'or de la Terre. Valérian et Laureline réunissent tous les amis rencontrés le long de la saga, et c'est cette planche que nous allons commenter. Alors, c'est une planche qui n'est pas un gaufrier classique, elle est divisée en deux. Hein, la moitié de la page, nous avons deux personnages. Nous avons le personnage de Schröder, le scientifique, qui raconte sa vision de l'histoire, et nous avons un personnage qui est inspiré de Sun Ra, qui lui est un laissé-pour-compte, un paria, qui lui raconte l'autre histoire vue du côté des laissés-pour-compte. Ensuite, nous avons dans la deuxième moitié de la page une jeune femme qui appelle Valérian et Laureline pour les convier à un repas. Et dernière cage transversale, nous avons tous les héros qui vont porter un toast et annoncer la fin de l'aventure pour essayer de rétablir la Terre qui est prisonnière du Grand Rien. Voilà, nous allons écouter cette petite planche.
Il y a l'histoire écrite par les vainqueurs, les riches, les technocrates. C'est eux qui ont construit les premiers dômes de Galaxity, eux qui ont terraformé de nouveaux territoires, eux qui ont récupéré mes appareils, eux qui ont créé le service spatio-temporel, eux qui ont envoyé un ambassadeur sur Point Central.
Et puis, il y a l'autre histoire, celle des vaincus. Celle-là n'a pas été écrite du tout parce qu'ils ont disparu dans les cataclysmes successifs. Les pauvres, les affamés, les malades, les infirmes, mes frères illettrés de la pègre. Ceux-là ont été les victimes à jamais éradiquées de l'âge noir.
C'est prêt, vous venez manger ? Ça sent drôlement bon.
À l'ouvre-temps, qui nous permettra de résoudre bien des mystères.
Et d'abord à renvoyer les Wallocks là d'où ils n'auraient jamais dû sortir.
Voilà, donc nous sommes dans une étape intermédiaire de l'histoire où les héros se rassemblent. Et nous avons une très belle illustration du clair-obscur hein, dans les deux premières planches. Et presque un happy end qui ne va pas manquer d'arriver, mais sauf que ce happy end sera un paradoxe spatio-temporel que je ne dévoilerai pas et qui mérite d'être lu jusqu'au bout. Voilà, alors pour vous montrer effectivement au niveau graphique, Mézières s'inspire des grandes icônes de la culture populaire, parce que nous avons Jerry Lewis qui est le scientifique qui parle en premier, et nous avons Sun Ra, le jazzman qui est repris. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Valérian et Laureline aussi sont des personnages iconiques. Alors, Valérian, c'est un anti-héros, et au début, Mézières va s'inspirer de Hugo Frey. Laureline, c'est plus complexe. Laureline, c'est une création vraiment originale de Pierre Christin. C'est une sauvageonne qui vit dans une forêt, et Valérian la trouve. C'est un couple qui n'est pas un couple officiel, ils ne sont pas mariés, ils sont souvent jaloux. Laureline est souvent plus futée que Valérian et elle l'aide dans ses quêtes. C'est un personnage vraiment iconique, féministe avant l'heure dans l'histoire de la bande dessinée. Alors, pour parler des auteurs de Christin et Mézières, ce sont vraiment des amis d'enfance. Ils ont été influencés par la revue Planète, effectivement. Ils ont aussi évolué, notamment le style de Mézières, et on le voit là dans cette planche, arrive à une maturité. Au début, il était très inspiré par Franquin, Maurice et Kurtzman de Mad, et aussi par Jean Giraud. Là, il trouve vraiment son style. Jean-Claude était quelqu'un de très méticuleux, qui reprenait énormément, qui revenait plusieurs fois sur la tâche. Il a énormément voyagé, il était ami de Jean Giraud, donc il a fait énormément de dessins, de croquis dans l'Ouest américain. Il est Grand Prix d'Angoulême en 84. Son style doit beaucoup à Jigé, créateur de Jerry Spring, et aussi, on voit dans les premiers Valérians, l'influence de Kurtzman et de Mad, où effectivement, à la demande de Goscinny, il va mettre dans Valérian un certain nombre de clins d'œil humoristiques sur les rapports hommes-femmes et sur le rapport à la société de consommation. Il va publier en pilote en 66 des histoires plutôt Rome du Ponche, des histoires d'aventure, des histoires aussi plus philosophiques, les aventures du docteur Faustus, avant de commencer en 66 par la Cité des eaux mouvantes, dont l'album dont nous parlons aujourd'hui est un peu la clôture de l'arc narratif. Son scénariste, Pierre Christin, lui, effectivement, a écrit cette fin depuis très très longtemps. Pierre Christin est quelqu'un qui s'intéresse énormément à la politique, à la géographie. Il était prof de journalisme. Il a une vision du monde et de la géopolitique très marquée, aussi inspirée de George Orwell. Et pour lui, la science-fiction va permettre de surchauffer le réel, donc de donner au monde réel une espèce de décalage et aussi une espèce de réflexion sur le pouvoir et le monde politique. Voilà. Les couleurs de Valérian, qui sont toujours faites depuis l'origine par Evelyne Tranley, qui est la sœur de Jean-Claude Mézières, qui a réalisé des couleurs aussi pour Blueberry, Astérix, et elle travaille beaucoup en agençant des demi-teintes assez recherchées, qu'on voit dans la planche que nous venons de commenter. Alors, les grandes inspirations de Mézières et Christin sont forcément la conquête spatiale, le test Project Apollo Soyuz de 75, la question du nucléaire et de l'écologie, la question du totalitarisme et bien entendu le cinéma, parce qu'il y a plein de références cinématographiques dans cette œuvre. Alors, un des points étonnants, c'est l'histoire de Tchernobyl, puisqu'effectivement, dans le premier album, nous avons une explosion nucléaire. Un catastrophe de Tchernobyl qui se produira vraiment dans le réel à la date donnée dans l'album. Donc ça fera beaucoup réfléchir Christin sur la qualité et la question de la prophétie dans la bande dessinée. Donc effectivement, toutes ces questions de la Terre et de la survie de la Terre est au cœur de la série à travers les voyages spatio-temporels. Dans les Fous d'Odypsis, effectivement, nous avons une espèce de règlement de cette histoire. Avec la Galaxy City, avec l'idée que la Terre a été détruite. Donc il y a deux histoires parallèles qui seront détruites, qui seront montrées dans les univers parallèles. Nous aurons deux schémas selon que la Terre est détruite ou pas en 86, avec effectivement l'idée de réconcilier ces deux lignes spatio-temporelles. Alors, vous les voyez dans les intégrales qui ont été publiées. Je ne vais pas développer plus, mais l'idée de l'album L'Ouvre-Temps, c'est d'arriver à réconcilier le paradoxe spatio-temporel, et on finit sur un autre paradoxe. C'est donc une vision à la fois poétique et scientifique qui est donnée. Alors, nos auteurs vont s'inspirer énormément du cinéma, notamment de la Machine à remonter le temps, de George Pal, d'après, effectivement, Orge Welles. Et 2001. 2001 est présent dès le début, dans la Cité des eaux mouvantes, avec les vaisseaux qui tournent autour de la Lune. Et nous avons, dans l'Ordre des Pierres, les fameux Wolocs, qui sont des facteurs de chaos, qui sont une référence au monolithe noir de 2001. Alors ce monolithe, effectivement, C'est peut-être la pierre philosophale chez Kubrick. Chez Mézières et Christin, nous avons un agent du chaos, un agent de destruction qui n'a pas d'âme, qui n'a pas de propos, sinon de détruire et de permettre à l'univers de repartir. Et dans l'ouvre-temps, nous avons une pierre magique qui, elle, serait un avatar de la pierre philosophale pour réunir les deux univers et finalement permettre à la Terre de sortir du néant. Donc Valérian est une série pionnière dans le genre de la SF. La fin de Valérian est sans commune mesure avec la plupart des séries que l'on connaît. Il n'y a pas de suite possible, nous avons des spin-offs, des Valérian vu par, mais en tout cas, la série est bel et bien terminée. Mézières a énormément influencé le cinéma. Dans Pilote en 83, il met en avant un dessin dans lequel on voit Valérian discuter avec Luc et Layla, puisque vous trouverez ça dans L'Art de Mézières qui vient de paraître. Nous avons énormément de plans de Star Wars qui renvoient à des images et des dessins faits dans la série Valérian. Et ça, c'est assez curieux. Il est clair que cette œuvre va rester. Hein. Elle a aussi influencé l'île lors de manifestations sur la capitale culturelle, où nous avions toute une partie du grand axe de l'île qui a été décorée par Jean-Claude. Il a travaillé pour les décors du cinquième élément. Luc Besson a associé Jean-Claude et Pierre Christin pour la réalisation d'un film qui adapte deux BD, les deux premières BD de la série, L'Empire des mille planètes et L'Ambassadeur des ombres. Bon, l'univers a été sous-exploité, effectivement, on se rend compte que la bande dessinée est plus riche que le cinéma dans ce cadre-là, c'est assez évident. Il existe aussi une série d'animations où on joue sur la notion du mot « temps ». Elle est assez rigolote, mais différente de l'animation de la série et du fil narratif. Et enfin, nous avons des documentaires de Avril Tambouret pour connaître le process créatif de Jean-Claude à travers l'histoire de la page 52. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que cette série a traité tous les grands sujets sociopolitique de notre époque, et que nos auteurs se prononcent sur la fin, l'idée de devoir finir une série. Et à la postface du tome 7, nous avons ce petit texte que je vous livre, qui a été écrit par Pierre et effectivement Jean-Claude conjointement. La fin des fins de Valérian est une fin incertaine, comme notre monde moderne, ni utopie ni dystopie. Valérian, c'est la négation des théories de la fin de l'histoire. C'est l'acceptation des innombrables possibles, qu'ils soient menaçants ou exaltants. C'est ce que nous avons essayé de raconter en nous prenant nous-mêmes pas trop au sérieux, mais en prenant très au sérieux notre travail de bande dessinée. Voilà, et on peut les remercier pour ce travail qui va rester et souhaiter à Jean-Claude, qui nous a quittés, un bon voyage dans les étoiles.